sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Chaque année, l'Académie des sciences remet une série de prix prestigieux sous la coupole de l'Institut de France au cours de deux cérémonies. Lors de la seconde séance solennelle de remise des prix 2012, Édouard Brézin a prononcé un discours de clôture consacré au très médiatique boson de Higgs, cette particule à l'origine des interactions avec toutes les autres particules qui nous entourent et découverte en juillet 2012 par les physiciens du CERN. Nous vous proposons d'écouter sans plus tarder Édouard Brézin, physicien, membre de l'Académie des sciences, sur cette particule qui fait autant parler d'elle.
Bien, mesdames, messieurs, qui nous faites l'amitié d'être parmi nous cet après-midi, on m'a donc demandé de faire un exposé sur le boson de Higgs, et je l'ai intitulé « Peut-on comprendre simplement le boson de Higgs ?» Et n'oubliez pas le point d'interrogation qui termine la phrase. Pourquoi cette question ? C'est bien sûr parce que le 4 juillet 2012, le CERN a annoncé la découverte d'une particule nouvelle qu'il semble bien pouvoir être le boson de Higgs recherché depuis plus de 40 ans. Et l'événement a été salué par des manchettes éditoriales dans la plupart des grands journaux du monde, ce qui est tout de même inhabituel pour un événement scientifique. Donc, je vais essayer de vous le situer, et d'abord de situer l'exploit expérimental que cela représente, car la machine qu'il a mis en évidence, qui s'appelle le LHC, c'est le sigle anglais qui veut dire « grand collisionneur de Hadron », est un exploit expérimental qui laisse absolument pantois devant d'admiration. Je crois que c'est incontestablement l'instrument le plus complexe réalisé par l'homme dans tous les domaines. D'abord, si j'essaye de le situer dans l'espace, sur cette figure, il y a l'esquisse d'un tunnel qui est en fait à 100 mètres sous terre, qui est situé à la frontière franco-suisse, qui a 27 km de périphérie, dans lequel la machine accélère des protons qui vont aller à des énergies considérables. Si vous arriviez à lire mes graphiques, vous verriez que ces protons vont à des vitesses qui ne diffèrent plus de la vitesse de la lumière que de moins d'un milliardième. Ils s'en approchent, mais comme nous savons depuis Einstein, ne peuvent jamais l'égaler, mais tout de même, ils n'en sont pas très loin. Donc, après avoir été ainsi accélérés à ces vitesses vertigineuses, ils entrent en collision et la machine comporte 4 sites dans lesquels ils vont entrer en collision. 2 d'entre eux, qui sont en rouge ici, qui s'appellent les détecteurs ATLAS et CMS, sont consacrés à la recherche, étaient consacrés, le sont encore, à la recherche de cette particule nouvelle. Cette machine et ces détecteurs constituent des cathédrales d'informatique. Si vous pouviez voir ce dessin, vous verriez l'un des 2 détecteurs qui a permis la découverte de cette particule nouvelle, qui s'appelle ATLAS, un sigle encore une fois, et qui là est vide d'instrumentation, mais si vous le voyez, vous verriez tout en bas une petite fourmi qui est un homme. C'est réellement une cathédrale d'électronique. Après collision, je voudrais quand même signaler que dans l'expérience ATLAS, ça nous montre quand même la dimension de ces choses. 3000 physiciens ont collaboré à cette expérience, plus 1000 doctorants, représentant 38 pays et 176 laboratoires du monde. Donc vous voyez l'intensité de l'effort. Chaque collision donne lieu à la production de centaines de particules. On voit ici une photographie d'une de ces collisions. Et c'est par le léger accroissement de la production de certaines d'entre elles que l'on peut affirmer que la particule attendue a été produite. En effet, sa durée de vie est inférieure à 10 puissance moins de 22 secondes, et pour ceux qui ne verraient pas ce que ça veut vraiment dire très peu. Elle se désintègre immédiatement, et donc sa présence ne se manifeste que par l'accroissement de ses produits de désintégration. Effectivement, les équipes ont vu une anomalie dans le comptage de paires de photons. Et cette anomalie, c'est une toute petite bosse qui n'est même pas visible là où je suis, et donc peut-être certaines la voient-ils, mais pour lesquelles les expérimentateurs nous disent qu'avec 6 écarts standards de certitude, c'est-à-dire la certitude, ils ont vu une particule nouvelle qui est environ 134 fois plus massive qu'un proton, ce qui signifie qu'elle est plus massive que le plus lourd de tous les atomes qui existent sur Terre, qui est l'uranium. Donc, c'est, vous voyez, on est dans un domaine assez différent de l'habitude. Donc, je reviens à la question initiale. Peut-on comprendre pourquoi la découverte de cette particule, s'il s'agit bien de celle qui était attendue depuis si longtemps, il faudra quelques expériences complémentaires pour s'en assurer. Pourquoi est-ce important ? Peut-on comprendre pourquoi c'est important ? La réponse, je crois qu'il faut être honnête, la réponse est hélas non. Je ne vais pas arriver à réellement vous faire percevoir pourquoi cette particule. Je vais simplement essayer, en effet, c'est un effet quantique, et réellement sans calcul, sans expérience préalable, je crois que c'est bien difficile. Mais je vais essayer de situer son histoire, qui est extrêmement intéressante et qui nous fera nécessairement balayer à peu près tout le siècle passé et même un peu plus. Donc, je vais situer l'histoire de ce qui s'appelle réellement les interactions nucléaires faibles. Le début de cette histoire remonte à Henri Becquerel, 1896, découverte de la radioactivité, suivie immédiatement par les travaux de Marie et Pierre Curie en France, aussi bien que ceux de Rutherford en Angleterre, suivi de bien d'autres physiciens. Ces physiciens s'aperçoivent très rapidement qu'il y a plusieurs types de radioactivité. L'une d'entre elles, qui s'appelle bêta, est une radioactivité qui est faite de l'émission de rayons très pénétrants, qui, contrairement à l'alpha, qui est arrêté par la moindre feuille de papier, pénètre dans des feuilles métalliques et, finalement, est très présente dans la nature. Ils découvrent également que ces rayons peuvent être déviés par des champs magnétiques, ce qui montre la présence de particules chargées. Et sur, ils sont très rapidement, ils mettent en évidence que ce sont simplement des noyaux qui émettent des électrons. Et ils s'aperçoivent que beaucoup des isotopes des atomes que nous avons dans la nature, des noyaux de ces atomes, sont radioactifs en émettant des électrons. Mais cette découverte donne lieu à une première crise. Vous verrez que nous verrons une succession de crises. Première crise théorique qui va beaucoup préoccuper Marie Curie, Einstein également, car la conservation de l'énergie, qui est un des piliers sur lesquels repose toute notre compréhension de la matière, voudrait que les électrons sortent tous à la même vitesse, tous à la même énergie. Or, ce n'est pas le cas. On s'aperçoit qu'il y a un spectre d'énergie, ce qui est à peu près incompréhensible. Pendant beaucoup d'années, il va y avoir des interrogations. Niels Bohr, le grand Niels Bohr lui-même, va se demander, mais est-ce qu'une fois de plus, il ne faut pas renoncer au dogme, comme on a l'habitude, il n'y a pas de dogme qui tienne trop longtemps, est-ce que la conservation de l'énergie ne serait pas une loi statistique moyenne, mais à laquelle il faudrait renoncer pour un prototype individuel? Mais la crise s'approfondit, et Wolfgang Pauli s'aperçoit en 1930 que non seulement la conservation de l'énergie est en question, mais même l'isotropie de l'espace, le fait que l'espace soit le même dans toutes les directions. Donc ça, c'est quand même aller trop loin. Et en 1930, Wolfgang Pauli postule qu'il existe une particule que personne n'a jamais vue, en 1930, qui accompagne l'émission de l'électron, qui ne peut avoir aucune charge car l'électron a emporté toute la charge disponible. Et dans ces conditions, elle est neutre. Elle a évidemment une masse très petite, comme on le voit à partir des mesures énergétiques. Et c'est Fermi qui, immédiatement, la baptisera neutrino. Il faudra attendre 26 ans. Le neutrino ne sera découvert expérimentalement qu'en 1956, car les neutrinos ont la propriété de n'interagir que très peu, très faiblement avec la matière. Nous tous qui sommes ici sommes traversés à chaque instant par des milliards de neutrinos qui passent à travers nous et même à travers la Terre en général, sans avoir la moindre collision. Il y aura d'ailleurs des doutes considérables sur cette particule, et j'ai dans ma bibliothèque un livre remarquable, d'ailleurs excellent, de 1955, qui qualifie cette particule d'artefact à travers lesquels les physiciens cachent leur ignorance. Néanmoins, en 1956, il a été, l'année d'après, le livre de M. Richmayr, cette particule est découverte. Mais je reviens à 1930. En 1932, Chadwick, en Angleterre, découvre le neutron. Et on comprend enfin la structure du noyau de l'atome, puisqu'on comprend que ce noyau est fait de deux types de particules, le proton chargé et le neutron, qui est quasi semblable, sauf qu'il est dépourvu de charge. Voilà les noyaux qui existent dans la nature. Mais, contrairement au proton, le neutron est une particule instable. Si on abandonne un neutron à soi-même, eh bien, en moins d'un quart d'heure, le neutron se désintègre. Et Fermi comprend que c'est ça la radioactivité bêta, c'est le neutron qui se désintègre, qui donne un proton, ce qui fait la transformation du noyau, un électron et un neutrino qui sont émis simultanément. La radioactivité bêta est donc due à l'instabilité de ces neutrons. Et ce n'est pas un détail. Il y a en effet, c'est évident dès cette époque, une interaction nucléaire forte, celle qui lie les protons et les neutrons entre eux dans les noyaux, elle est nécessairement forte, car les protons, ayant tous des charges positives, devraient se repousser s'il n'y avait que des forces électriques, mais en réalité, quelque chose de plus fort que ça les lie, c'est l'interaction nucléaire forte. Mais l'interaction nucléaire faible, celle dont je parle aujourd'hui, est également importante, car s'il n'y avait que l'interaction nucléaire forte, on pourrait penser que, dans l'univers, il y a des noyaux qui sont gros comme le Ritz. Ça, c'est une illustration des deux héros de cette histoire, que sont, pour l'instant, Pauli et Fermi. En effet, cette interaction nucléaire est très forte, et a priori, elle pourrait agglomérer un nombre considérable de neutrons. Et donc, si on regarde la vallée de stabilité que vous ne pouvez pas voir ici, mais que vous devinez, on y voit en abscisse le nombre de protons, en ordonnée le nombre de neutrons de tous les noyaux qui existent dans la nature, ou plus exactement sont ceux qui ont une durée de vie perceptible, de fraction de seconde. Et on peut se demander pourquoi il n'existe qu'un petit nombre de noyaux, quelques centaines dans la nature. Bien sûr, du côté des protons, c'est limité parce que j'ai dit, si on augmente le nombre de protons, la charge électrique qui les fait se repousser malgré l'attraction nucléaire va finir par l'emporter. Pourquoi est-ce limité du côté neutron ? Eh bien, c'est parce que dès qu'un noyau a un excès de neutrons, l'instabilité du neutron va faire que ce noyau est instable. Et voilà l'explication du fait qu'il n'y a qu'un petit nombre de noyaux stables dans la nature. Donc, vous voyez que c'est un phénomène très important. Dès 1935, Enrico Fermi, déjà cité, génial théoricien et expérimentateur italien, dès 1935, il fait une théorie de cette désintégration. Cette théorie est extrêmement simple. Il dit un neutron se désintègre dans trois particules, un proton, un électron, un neutrino. Elles sont émises au même point, au même instant. Et la théorie de Fermi rencontre d'absolument toutes les expériences. Mais, seconde crise, les théoriciens ne sont pas contents. Il réalise très vite que cette théorie est pathologique, que si on conduit des expériences à plus haute énergie que celle qui est disponible à l'époque de Fermi, eh bien on va avoir des choses tout à fait incohérentes, des probabilités supérieures à 100%, une crise avec la physique nouvelle qui est la mécanique quantique. Cette crise va durer pendant plus de 30 ans. Et entre-temps, je suis obligé de faire un saut, laisser un instant les interactions nucléaires pour passer à autre chose. Les années de l'après-Seconde Guerre mondiale voient le succès d'une autre théorie qui s'appelle l'électrodynamique quantique. L'électromagnétisme, théorie du XIXe siècle, dans laquelle nous venons d'entendre le nom d'Ampère, il faudrait ajouter évidemment Faraday, Maxwell, Coulomb et bien d'autres. Cet électromagnétisme est enfin, dans les années qui suivent l'immédiate après-guerre, de la Seconde Guerre mondiale, est rendu compatible avec mécanique quantique et relativité par des héros qui s'appellent Feynman, Schwinger, Tomonaga au Japon. Entre-temps, le mathématicien Hermann Weyl a montré que le cadre quantique permet de reconstruire toutes les lois que nous connaissons de l'électromagnétisme depuis tous ces grands physiciens du XIXe siècle que j'ai cités, par un simple principe de symétrie locale qu'on appelle symétrie de jauge, que je ne me risquerai pas à expliquer devant vous. Mais c'est un triomphe de la compréhension du monde, dans la mesure où on réalise un vieux rêve. Peut-être vous souvenez-vous que Kepler, après avoir trouvé les mouvements des planètes, cherche par une loi de symétrie cachée à reproduire leur distance au Soleil. Donc il fait une théorie qui repose sur l'existence des solides platoniciens, théorie complètement fausse et qui sera par terre lorsque on découvrira une sixième planète, alors qu'il y a 5 solides platoniciens. Mais dans le cadre de l'électrodynamique, la symétrie suffit à expliquer toute la théorie. Dans cette théorie de l'électromagnétisme quantique, l'interaction entre particules chargées est due à l'échange de photons. Alors ceux qui voient le petit dessin qui est là voient deux particules chargées habillées comme des rugbyman en bleu et qui courent en échangeant un photon qui a pris la forme d'un ballon ovale. Donc c'est ça l'image que nous avons. Deux particules chargées interagissent en échangeant un photon. Mais à la différence du ballon ovale, le photon, comme nous le savons depuis Einstein, a une masse nulle. C'est ce qui lui permet d'aller à la même vitesse par rapport à tous les observateurs, quel que soit leur état de mouvement. Et dans ces conditions, le fait qu'il ait une masse nulle fait qu'il peut porter cette interaction très loin. C'est une interaction de portée infinie, disent les physiciens, en tout cas très grande. Dès 1960, pour essayer de remédier au problème de la théorie de Fermi, qui a beau marcher avec l'expérience, les théoriciens n'en veulent pas, des physiciens, à la suite de Glashow aux États-Unis, vont essayer de reproduire le mécanisme qui avait fait le succès de l'électromagnétisme. C'est-à-dire qu'un neutron va se transformer en proton en émettant un médiateur qui n'est pas un photon, qu'on appelle W, qui va porter une charge négative parce que en devenant proton, il faut bien que la charge soit conservée. Et donc, il va émettre un W. Donc, on va ainsi imiter la stratégie de l'électromagnétisme. C'est simplement la particule W qui joue le rôle du photon, mais immédiatement, une contradiction se présente. On est toujours en 1960. Ou bien ces particules médiatrices qui généralisent le photon, W, sont comme le photon sans masse, et la théorie est parfaitement cohérente, mais alors la portée est infinie, très grande en tout cas, ou bien elles sont massives, alors l'interaction est bien de courte portée, comme Fermi avait dit même que c'était de portée nulle, puisqu'elles étaient émises tout au même point. Donc elles sont bien de courte portée, mais on retrouve exactement l'incohérence quantique devant laquelle avait buté Fermi. Donc voilà la crise 1960. Un pas est franchi en 1964 par deux physiciens qui travaillent à Bruxelles, Braut et Engler. Braut n'est plus parmi nous. C'était un Américain réfugié en Europe à l'issue du McCarthyisme. Il n'est plus là, hélas. Engler, Peter Higgs à Édimbourg, indépendamment, emprunte un mécanisme qui a fait ses preuves dans la théorie de la supraconductivité, une transition de phase avec un champ supplémentaire, un boson, c'est-à-dire un champ qui n'est pas comme l'électron, le neutron ou le proton de particules qui s'excluent pour des raisons statistiques, mais au contraire ont une vision cohérente entre elles. Donc un champ supplémentaire couplé à cela. Je vais essayer de reproduire, d'expliquer devant vous. Voilà ce que l'on connaît bien dans la théorie de la supraconductivité. Vous savez qu'un certain nombre de substances métalliques à très basse température ont cette propriété remarquable de faire passer des courants sans aucune résistance électrique. Si on pouvait les exploiter industriellement dans la distribution de courants, ce serait absolument remarquable. Malheureusement, il faut des très basses températures et ça coûte cher. Mais lorsque, en réalité, il y a une transition entre deux états. À haute température, nous sommes dans la situation de gauche. Dans la situation de gauche, vous avez cette substance qui est exposée à un champ magnétique, et le champ magnétique pénètre à l'intérieur de la substance. Quand on descend la température et qu'on passe, qu'on a cette transition vers l'état supraconducteur, nouveau, connu depuis le début du XXe siècle, alors le champ magnétique est expulsé. C'est ce qu'on appelle l'effet Meissner. Mais en réalité, le dessin dans lequel, comme tout le monde, j'ai fait expulser le champ magnétique est un peu trompeur. Il n'est pas complètement expulsé. En réalité, il pénètre. Il pénètre très légèrement dans l'échantillon, d'une quantité microscopique, parce que, très précisément, les photons auxquels est associé le champ électromagnétique pénètrent dans l'échantillon, mais se couplant avec l'ordre supraconducteur qui s'est installé, acquièrent une masse, n'arrivent plus à se propager, et donc le champ électrique ne pénètre que de manière infinitésimale. C'est ce mécanisme qui est présent dans le mécanisme de Higgs. À gauche, c'est l'univers avant que la transition de phase qui s'est peut-être passée dans les débuts de l'univers se produise, dans laquelle ces médiateurs dont je parlais tout à l'heure, sont de masse nulle. Et puis, très vite, après le Big Bang, une transition de phase s'est produite, un ordre s'est établi, qui est celui imposé non pas par les paires d'électrons comme dans les supraconducteurs, mais par cette particule qui s'appelle le Higgs, qui se couple au W, leur donne une masse et fait que ceci ne se propage plus que sur des distances extraordinairement courtes. Voilà le mécanisme de Higgs. Dès 1967, les théoriciens Steve Weinberg, Abdus Salam, indépendamment, incorporent ce mécanisme dans une théorie de symétrie, comme l'électromagnétisme, sauf que le groupe de symétrie est plus compliqué. Pour ceux qui connaissent des mathématiques, c'est un groupe de symétrie XU2 fois U1, qui, de manière remarquable, premièrement, est complètement cohérent avec la mécanique quantique, qui donne des interactions courte portée, et une espèce de cerise sur le gâteau, comme on dit vulgairement, unifie les interactions faibles et électromagnétiques, un peu comme au XIXe siècle, de façon miraculeuse, Maxwell avait montré que électricité et magnétisme ne sont que deux faces d'une même entité. Vous voyez bien qu'entre l'électromagnétisme et les interactions nucléaires, il y avait des mondes. Ces mondes ont été unifiés. Mais donc, ils prédisent l'existence de ces médiateurs nouveaux, W, en fait, ils en prédisent trois, W+, W-, troisième qui s'appelle Z. En 1973, il fallait démontrer que tout ça marchait bien avec la mécanique quantique. C'est l'œuvre de Tofte, qui est notre associé étranger, et Weltmann, qui ont évidemment le prix Nobel. Et ces médiateurs des interactions faibles, W+, et Z, sont découvertes au CERN, dans les années 80, grand triomphe du CERN. Ils sont environ 100 fois plus lourds que le proton, c'est-à-dire plus lourds que l'uranium, ce ne sont pas des particules nouvelles. Ils ont une durée de vie de l'ordre de 10^-24 secondes. Donc voilà la situation des années 80. Il ne restait plus que cette particule qui était chargée par son ordre de leur donner une masse, qui était ce boson qu'il faudrait appeler le boson de Brout-Englert-Higgs, pour que toute cette construction soit validée. La particule découverte cette année au CERN est évidemment un candidat très sérieux. Il faudra des expériences complémentaires pour s'en assurer, notamment pour porter cette machine extraordinaire à l'énergie finale pour laquelle elle a été conçue. Il va falloir qu'elle s'arrête pendant plus d'un an, donc il ne faut pas être trop impatient, mais je pense que maintenant nous saurons très vite, mais je crois que plus personne n'en doute sérieusement, que cette particule prédite en 1964 a bien été découverte. Je voudrais conclure avec trois brèves remarques de nature plus sociologique. La première, c'est qu'il se trouve que j'étais en Italie le 4 juillet. Et donc, voilà, j'ai lu le titre de la Repubblica qui était « Trovata la particella di Dio ». On a trouvé la particule de Dieu. Et c'est vrai que dans la presse française, nous avons eu des titres avec la particule de Dieu. Alors, d'abord, c'est du point de vue de la communication scientifique, c'est désastreux. Des amis italiens m'ont demandé, mais enfin, est-ce que vous avez perdu la tête ? D'autres se demandaient s'il allait falloir faire un pèlerinage au CERN comme à Lourdes. Est-ce que Dieu s'était manifesté dans le tunnel du LHT ? Bon, C'est affreux de dire ça, mais ce n'est pas la faute des journalistes. Pour une fois, ce sont nos collègues américains, prix Nobel de physique, très grand monsieur, Léon Dederman, qui avait fait plusieurs séminaires, qu'il avait intitulé « This goddamn particle », et permettez-moi de ne pas traduire, parce qu'elle était si difficile à trouver. Mais ensuite, il a écrit un livre de vulgarisation avec un journaliste, et le livre s'est appelé « The God Particle ». Voilà l'origine du désastre. Bon, donc, je demande à mes collègues scientifiques d'éviter ce genre d'horreur. Deuxième commentaire, on a vu très vite, après les articles annonçant la découverte de cette particule, la particule à 4 milliards, enfin, toutes sortes de choses. Et cela m'a fait ressouvenir d'une audition parlementaire du concepteur de la plus grande machine qui existait au monde avant le LHC, qui s'appelait Fermilab, dans la banlieue de Chicago. Son concepteur, Robert Wilson, un homme très remarquable, est interrogé par une commission parlementaire qui lui dit « Professeur Wilson, expliquez-nous pourquoi il faut construire une machine aussi chère. » Alors, professeur Wilson essaye d'expliquer combien la culture, le triomphe de l'esprit humain, c'est des poètes, des sculpteurs, des peintres, mais aussi la science. Et à la fin, un sénateur lui dit « Mais quand même, professeur Wilson, expliquez-nous pourquoi cette particule peut être importante pour la défense de notre pays. Car nucléaire, on est dans l'ambiguïté que vous connaissez, expliquez-moi pourquoi ça peut être important. » Et professeur Wilson répond « Cette particule n'a rien à voir directement avec la défense de notre pays, monsieur le sénateur. Je ne peux rien vous dire. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est que ça le rendra mérité d'être défendu. C'est grâce à... car il estimait que ceci était le triomphe de l'esprit. » Dernier commentaire plus scientifique, vous pourriez me dire, bon ben voilà, maintenant, le modèle standard à supposer que c'est bien la particule de Higgs qu'on a découvert. Le modèle standard a été validé. Est-ce qu'on est au bout de l'aventure? Eh bien, en réalité, pas tout à fait. Nous sommes dans une situation qui, en quelque sorte, ressemble à celle de Fermi 1935. Car nous avons ce modèle standard pour lequel, pour l'instant, il n'existe, j'allais dire hélas, aucune expérience qui le mette en défaut. Il marche désespérément bien. Or, la raison pour laquelle je dis désespérément, c'est que si on regarde ce modèle, un peu comme le modèle de Fermi, il porte en son sein sa propre destruction. Nous savons de manière certaine qu'à plus haute énergie ou à plus courte distance, dans ces microscopes extraordinaires que sont ces accélérateurs de particules, il existe des phénomènes nouveaux, sans que nous sachions lesquels. Le modèle standard lui-même nous dit qu'il ne peut pas être la réponse définitive à supposer que cela ait un sens. Jusqu'à présent, cela n'a jamais eu dans les sciences de la matière. Mais si on pouvait imaginer que le modèle standard, c'est la fin de l'histoire, eh bien non, l'histoire est devant nous. Et je me réjouis qu'il y ait quelques jeunes gens dans cette salle et jeunes filles pour la porter plus loin. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre Édouard Brézin, physicien membre de l'Académie des sciences, autour de la compréhension du boson de Higgs, un discours qui avait lieu en clôture de la seconde cérémonie de remise de prix sous la coupole de l'Institut de France, c'était en novembre 2012. Retrouvez sur le site de l'Académie des sciences le palmarès complet des prix 2012 et restez en notre compagnie sur le site de Canal Académie, en téléchargeant nos émissions avec le physicien Édouard Brézin et Michel Davier de l'Académie des sciences sur le boson de Higgs. Merci de votre écoute et à bientôt pour de prochaines retransmissions.